soir. Lancement hier lundi dans le territoire de Beni par les FARDC et la MONUSCO d'une opération visant à sensibiliser les rebelles ougandais des ADF encore réfractaires à déposer les armes. Selon le colonel Olivier Amouli, porte-parole militaire au Nord Kivu, les FARDC voudraient par la même occasion obtenir la libération volontaire des personnes qui sont prises en otage par ces rebelles. Comment analyser cette démarche et quel bilan dresser à ce jour depuis le début de l'opération de désarmement des ADF dans cette partie du pays, c'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition, élu de la ville de Beni au Nord Kivu et cadre du parti politique DCFN. Professeur Mouaka, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Professeur Boué Ndoye-Louga Essi, recteur de l'université libre Julius Nyerere de Bukavu Sud Kivu. Il est aussi directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Boué Ndoye, bonsoir. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les rebelles ougandais de l'ADF encore réfractaires exhortés à déposer les armes. Une campagne dans ce sens a été lancée hier lundi dans le territoire de Beni par les FARDC et la MONUSCO. Un hélicoptère de la mission onusienne avec à son bord quelques officiers des FARDC et de la section DD3R de la MONUSCO a largué des tracts dans les villages de Abia, Bango, Manzati, Kakuka et Kainama. Les FARDC voudraient obtenir par la même occasion la libération volontaire d'une centaine des civils encore détenus par ces rebelles depuis plusieurs mois. Olivia Mouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, est au micro de Martial Papi Moukeba.
Nous sommes en train de préserver les vies humaines qui sont prises en otage comme boucliers. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser tous les combattants ADF afin que nous puissions voir comment on peut récupérer les restes des otages encore vivants. On les sensibilise à déposer les armes et de choisir la vie que de choisir la mort. Ils sont déjà asphyxiés et à l'étape où nous sommes, on ne veut pas vraiment lancer une offensive compte tenu de ces boucliers qu'ils ont pris comme otages. Les taux s'est resserré sur les ADF. Il ne reste qu'un petit triangle là où ils sont asphyxiés vers la rivière Abia, au-delà du pont Semuliki ainsi que la rivière Bango. Et c'est là où nous avons les informations qu'ils ont déjà plusieurs otages là-bas, estimés à plus ou moins 200 à 300 personnes. Et on veut les récupérer au moins vivants. C'est pourquoi nous allons lancer même des tracts ou des dépliants afin que ces gens-là soient sensibilisés et qu'ils puissent se rendre et déposer les armes. Nous le faisons avec les partenaires de la MONUSCO.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. À ce jour, qu'est-ce qui justifie cette opération de sensibilisation des ADF quand on sait que le week-end dernier déjà, ils ont affronté les FARDC à l'arme lourde?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer comme d'habitude par saluer les deux professeurs Mouaka et Bouendoua qui sont devenus effectivement des co-débatteurs de tous les temps. Je crois qu'il faut saluer cette action de nos forces armées. Cela démontre à suffisance que l'armée est en train de se professionnaliser et sait à quel moment il faut faire quoi. Vous savez que depuis que les opérations ont commencé depuis bientôt 7 mois, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là de devoir organiser cette sorte de campagne pour amener les gens à quitter volontairement la bourse. Parce qu'effectivement, comme l'a dit le colonel Amouli, eh bien, le taux se resserre autour des ADF. C'est dans un triangle où, effectivement, les forces armées ont trouvé que il faut leur lancer un message pour, un, qu'ils puissent déposer les armes, deux, qu'ils déposent les otages, trois, qu'ils se rendent volontairement auprès des bases de la MONUSCO, et quatre, qu'ils soient assurés que si une fois ils se rendent à l'une des bases de la MONUSCO ou des FARDC, que la sécurité leur sera garantie conformément au droit de la guerre, au droit international humanitaire. Donc c'est une démarche tout à fait citoyenne d'une armée qui a fait des victoires et qui veut arriver au bout d'une rébellion qui a fait parler d'elle depuis une vingtaine d'années. Donc ça se justifie par cette montée en puissance de nos forces armées et les précarés autour desquels se retrouvent actuellement les derniers bastions des ADF Nalu qui devraient se rendre et qui n'ont plus de choix. Parce qu'effectivement, les forces armées sont arrivées à couper tous les approvisionnements, qu'il s'agisse de la nourriture, des médicaments, des carburants pour allumer les groupes, tout cela est déjà coupé. Et donc, il ne reste que à ceux qui restent de devoir se rendre, sinon choisir entre la vie et la mort, comme l'a dit le colonel Amoudi.
Alors, monsieur le gouverneur, quand vous dites que l'étau se resserre, vous avez donné quelques éléments, mais pour aller un peu plus dans les détails, quel bilan on peut dresser à ce jour, 7 mois après de cette opération de traque des ADF? Y a-t-il des capturés? Combien, par exemple, si on peut le savoir?
Mais il y a un grand bilan. C'est parce que les gens, effectivement, ne parlent pas suffisamment de ces opérations. Le premier résultat auquel on est arrivé, c'est qu'on a arrêté l'hémorragie de la prise d'otage. Imaginez-vous qu'à moins d'une année, on était à près de 700-800 otages. Si les opérations n'étaient pas menées, on serait arrivé aujourd'hui à plus de 2000 otages. Et ce serait la catastrophe pour la population de Beni. Le deuxième résultat, c'est qu'on est arrivé à libérer tous les champs. La ville de Beni, comme les territoires de Beni, était maintenant obligée à une famine qui est voulue par la présence des EDF dans tous les périmètres immédiats de Beni. On a libéré les centaines de champs actuellement réoccupé par les populations de Beni et aujourd'hui le vivre commence à être visible dans cette partie de la République. Le bilan, je ne sais pas vous le donner, mais moi le bilan que j'ai, c'est qu'il y a autour de plus de 400 rebelles qui sont tombés sur les champs de bataille grâce à la montée au puissance des forces armées. Nous avons récupéré par exemple presque 13 EDF Nalu qui ont été récupérés nos forces armées. C'est un bilan important. Les appareils de communication, les armes lourdes qu'on a récupérées, près de 471 AK-47 ont été récupérés d'entre les mains des EDF. Donc je crois que c'est un bilan très très positif et on doit louer la montée puissante de nos forces armées.
Alors, monsieur le gouverneur, en ce qui concerne les otages, le colonel Olivier Amouli parlait d'entre 200 à 300 personnes. Peut-on avoir des chiffres un peu plus exacts, si c'est possible?
Bon, on ne sait pas avoir des chiffres très exacts. Si on a commencé à lancer des tracts dans les zones, c'est parce qu'on a eu des informations de par nos services de sécurité qu'il y a des localités comme Abia, comme Lesse, où on est en train d'apercevoir quelques EDF qui finalement sont en train de vouloir se rendre, mais ils ont peur, ils croient qu'on va les tuer. Voilà pourquoi on a fait cette opération-là. Mais en termes d'otages qui se retrouvent dans le périmètre des EDF, il est très très difficile d'en connaître le nombre, parce que nous ne contrôlons pas totalement ce petit espace que nous voudrions demain contrôler. C'est la raison pour laquelle cette campagne est lancée, pour qu'on libère les restes d'otages. Moi, je sais que autour de 200, autour de 300, ce sont des chiffres que nous supposons être vrai, mais que nous pourrions vérifier le jour où les forces armées contrôleront totalement ces localités.
Monsieur le gouverneur, depuis que les ADF prennent des otages, y en a-t-il qui ont réussi à s'échapper, par exemple?
Oui, il y a un mois, j'avais donné un chiffre de 140 otages qui ont réussi à s'échapper. Et aujourd'hui, avec mes services qui sont au niveau du territoire de Beni, à travers les différents villages et les différents groupements, nous sommes au-delà des 140. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'annoncer lorsqu'ils quittent les lieux d'otage, parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils ne feront pas l'objet de beaucoup de menaces ou de ceci. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'au niveau des localités ou au niveau des villages, on fasse un enregistrement et que le moment venu, nous allions rendre public tous ces chiffres-là de nos compatriotes qui sont revenus. Mais également, il y a des enfants qui hier ont pactisé avec les EDF Nalu, qui sont en train de rentrer clandestinement dans le village. C'est pourquoi nous avons demandé à l'administrateur du territoire d'organiser une réunion avec la société civile et très prochainement, nous allons nous rendre à Beni pour devoir évaluer les dialogues sociaux que nous avions organisés, parce que c'est à l'issue du dialogue social de Beni qu'il nous avait été recommandé de proposer à la hiérarchie, effectivement, de déclencher les opérations contre les EDF Nalu dans ce territoire.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition, élu de la ville de Beni au Nord Kivu et cadre du parti politique DCFN. Professeur, comment vous analysez cette démarche de sensibiliser les ADF afin qu'ils déposent les armes?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le gouverneur Julien Paluku et le professeur Bouendoua. En fait, je voudrais aussi commencer par féliciter notre armée, le FARDC, l'armée nationale, qui est en train de se casser à 1000 morceaux pour pouvoir donner la paix à la population au niveau de l'est du pays et particulièrement en ville et territoire de Beni. Et je voudrais présenter toute ma compassion à la population des territoires et de villes de Beni pour les 22 ans en durée sous le coup des ZDF Nalu. Et donc, comment interpréter cette situation nouvelle de l'armée qui part du feu vers la sensibilisation? J'ai difficile à comprendre cela, mais je voudrais peut-être mettre ça dans le panier de la tactique militaire et ne pas trop en discuter, puisque pour ceux qui gardent la mémoire fraîche, ils peuvent se souvenir que cette opération Sokola 1 a commencé sous forme de sensibilisation. On a vu les officiels congolais, les militaires congolais et la MONUSCO promettre le feu aux différentes forces négatives et demander à ceux qui estimaient qu'ils pouvaient déposer les armes, libérer les otages, de le faire. Et la réponse qui a été réservée à cet appel gentil a été des exactions qui ont été démultipliées à Kamango, à Kikingi, sur cette route qui conduit vers Luanoli, à Kokola, à Maïmo, à Mbao, à Wicha. Bref, dans tout le périmètre dans lequel ces ZDF se retrouvaient, ces ZDF ont dû commettre les plus atroces des exactions sur la population, à telle scène que l'armée n'avait pas d'autre choix que de se jeter dans une bataille. Et donc, dire qu'on revient à la sensibilisation et que c'est cela peut-être qui pourrait nous amener à ce que toute la population attend, ce que le Congolais attend, c'est-à-dire la paix dans cette partie du pays. Bon, je suis un peu dubitatif, mais je préfère ne pas être tranché puisque je considère que cela procède de la tactique militaire. Et je suis d'autant dubitatif que dans ces opérations, il y a très peu de communication. Quand on essaie un peu de comparer avec les opérations d'IM23 qui ont connu en fait une victoire éclatante de notre armée, on semble ne pas trop connaître sur ces informations. Ceux qui sont sur le front nous informent très peu comparativement à ce qui s'était passé à Rutshuru, Nyiragongo et autres. Le plus souvent, quand il y a des informations, ce sont les membres du gouvernement qui confondent information et propagande, puisque nous avons le malheur d'être des députés du coin et le plus souvent, quand la propagande passe, nous avons des informations plus inquiétantes et douloureuses. Et donc, on connaît très peu sur ces informations et la politique de communication de ces opérations ne semble pas permettre aux patriotes que nous sommes, à tous les autres patriotes, d'avoir une analyse juste et éclairée sur l'actuelle décision de notre armée et du gouvernement de pouvoir rétrocéder par la sensibilisation qui a pourtant montré ses limites de le départ.
Et donc, professeur, quand vous dites que vous êtes dubitatif et que vous ne comprenez pas cette tactique, est-ce parce qu'il n'y a pas suffisamment de résultats sur terrain, vous qui êtes sur place à Beni?
J'ai difficile à être tranché de cette manière-là, mais j'ai dit, on nous informe très peu sur ce que sont nos victoires, ce que sont nos échecs, ce que sont les pertes dans le camp ennemi, puisque je crois que vous avez suivi le gouverneur, c'est le patron de la province. Lui-même n'a pas de précision sur beaucoup d'éléments, puisqu'il y a très peu d'informations là-dessus. Je crois que de plus en plus, les médias font partie des armes qui sont de plus en plus utilisées dans les guerres. Je ne comprends pas comment, finalement, on nous met à l'abri des informations qui peuvent peut-être nous permettre d'avoir le même sentiment qu'on avait quand la guerre était menée contre les M23 de triste mémoire.
Alors, professeur, je le disais tout à l'heure en posant la question au gouverneur, il y a une semaine, le week-end dernier, les ADF ont affronté les FRDC à l'arme lourde. Peut-on considérer qu'ils sont toujours approvisionnés?
Je ne peux pas le dire comme ça, mais je semble croire qu'ils sont encore là, puisqu'il y a, eu 2-3 jours, il y a eu un enlèvement. Moi, j'ai un étudiant dont les parents ont été enlevés, donc au niveau de Kokola, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours à gauche et à droite des choses assez inquiétantes. Et s'il y a eu des affrontements, cela signifie que c'est pas la parole qui va changer les choses. C'est pas la sensibilisation qui va changer l'esprit de ceux qui sont à Brousse. Je crois que la majorité de la population, la plupart des Congolais, croient que la capacité dissuasive de notre armée est plus importante que le verbe.
Merci, professeur. Professeur Bouyendoua Ilouga ici, vous êtes recteur de l'Université libre Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. Vous êtes également directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, comment vous analysez cette démarche qui consiste à sensibiliser les ADF à déposer les armes? Vous avez suivi le gouverneur et le professeur Mwaka.
Je vais d'abord saluer son excellence, monsieur le gouverneur Julien Paluku, et je suis bien content de travailler avec mon collègue, le professeur Arsène Mwaka, mais je suis bien content quand même, dans un premier sens, d'estimer à sa juste valeur la maîtrise absolue du gouverneur des statistiques et puis au fait de toute l'évolution de tous ces événements qui sont déroulés au nord Kivu et naturellement au sud Kivu aussi. Je suis bien heureux quand même d'être bien là. Je pense que l'analyse qu'on peut faire de la possible neutralisation de ces forces au nord Kivu ne peut que nous découler d'une vue objective du gouverneur du nord Kivu qui, quand même, à travers le temps et l'espace, pendant un moment donné, nous a donné l'occasion, à travers tous nos débats contradictoires, de nous dire que, quand même, on peut analyser la situation des ADF Nalu, qui relève de l'Ouganda, l'Ouganda lui-même qui a son histoire, son historicité. Et j'aimerais bien, quand même, dans un premier temps, avant que vous me posiez des questions, de saluer quand même le professeur.
Et donc, pour vous, professeur, le professeur Mwaka disait par exemple qu'il était dubitatif par rapport à cette démarche de sensibiliser les ADF, parce que selon lui, c'est par là qu'avait commencé l'opération Sokola, et puis on y revient. N'est-ce pas un aveu d'échec et d'impuissance?
Mais je pense que bon, les ADF Nalu, on doit arriver à dire qu'il va falloir qu'on comprenne l'idée qui se fond de ce qu'ils veulent et que nous aussi, ils comprennent l'idée que nous voulons qu'ils soient. Absolument, je pense que son excellence, monsieur le gouverneur, peut nous dire que, au vu de la situation du Nord Kivu, et du Sud Kivu, parce qu'en fait, les Kivu sont inséparables. Et qu'on peut arriver à se dire que, les rébellions, les séditions, les extravagances un peu politiques et militaires, ne nous ramènent qu'à une chose qu'en fait, on n'est pas en train de développer une des meilleures régions d'Afrique. Donc, naturellement, qu'on puisse maintenant faire un bilan, les gens qui sont au pouvoir peuvent nous dire, et au vu des éléments objectifs, qu'est-ce qu'on peut penser. Et je pense que, actuellement, nous devons nous dire que une sorte d'ombre de suite de paix est en train de se dessiner, que nous ne pouvons pas quand même fouler au pied tous les efforts qu'on a voulu mettre en place et que qu'on prend. Essayons de jouer franc jeu.
Professeur Bouendoua, nous allons prendre pour vous cette question qui nous vient du Sud Kivu.
Donatien Bouami, depuis Kamituga au Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, la démarche prise par la MONUSCO et les RDC, c'est ce qu'il fallait commencer avec, parce que la vie humaine est sacrée. Il faut négocier avec ces gens, même les États-Unis, s'agenouiller devant les talibans, en échange avec un seul soldat par plus de 6 terroristes talibans. Imaginez les centaines de nos compatriotes et otages, mes amis.
Réaction, professeur, faudrait-il finalement négocier avec ces ADF?
Je suis bien content de répondre à Donatien qui me parle de Mwenga au Sud Kivu, comme tout. J'ai étudié juste à côté du Bizi, à Mungombe. Je suis bien content. Rendez-vous, pour le moment, nous devons nous en mettre à l'idée que nous devons composer avec toutes les forces pour faire que la paix règne non seulement dans cette région, mais dans tout l'espace qui puisse nous permettre de vivre en paix. Parce que nous sommes les mêmes et que, après tout, composons.
Et donc, professeur, pas question de négociation, il faut en finir par les armes.
Non, les armes ne nous mèneront que d'autres armes, des armes en armes. Composons sur l'idée qu'on peut dépasser l'espace. national, l'espace local, national, régional, et nous dire que le développement n'est plus une question ni d'un lieu, ni d'une province, ni d'une entité, ni d'une identité, mais en fait la multiplication de tout cela pour qu'on arrive à une harmonie qui nous serve à tous, parce que je pense que tout le monde dans la région en a souffert et que, bon ben, on n'a pas à chasser les uns et les autres qui sont interarmés ou autres. Composons pour qu'on arrive à une harmonie, parce qu'après tout, nous sommes tous, comme disait Nyerere,
alors, professeur, s'il faut négocier, il faut composer avec eux, quelle serait la contrepartie?
La contrepartie serait la paix et l'idée que tout le monde se sente bien chez lui, là où il est. Et après tout, je pense que, comme je disais tout à l'heure, Afrique animale, l'Afrique est une, et Binadam Otinsawa, tous les êtres humains sont égaux. Bon, à cette idée-là, on peut se dire qu'on peut composer une sorte d'espace où, au-delà de nos différences et de nos dissemblances, on puisse être à même. Bonjour, je reviens peut-être sur des vieilles thématiques, mais je pense qu'on ne passera pas à une idée qu'au fait, le monde est devenu un village planétaire.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Durban en Afrique du Sud.
Je m'appelle Ngom Mfunga, je suis en Afrique du Sud et à Durban. À propos de ADF, comme d'autres forces négatives venant de l'extérieur, je vois une part de faiblesse de la part du gouvernement du Congo, car je ne peux pas comprendre une armée à laquelle on rend hommage et qui a le contrôle absolu de l'intégrité du territoire, mais qui a du mal à déloger une force externe et qui agresse. Jusqu'à quand notre gouvernement montrera sa force et honte ça?
Réaction, monsieur le gouverneur.
Oui, moi je pense qu'il est à Durban, Afrique du Sud, et je comprends très bien qu'il soit loin des réalités. Ceux qui connaissent bien les opérations Sokola, comment elles ont été menées, ils se rendent compte au stade actuel, il ne reste que quelques périmètres qui sont contrôlés par les rebelles ougandais. Et que commencer à dire ou continuer à dire que cela relève d'une faiblesse de l'armée, je crois que ce n'est pas comprendre les stratégies militaires. Le professeur Mwakala dit, on n'est pas obligé de vous dire exactement tout ce qui est en train d'être monté comme stratégie pour arriver à anéantir totalement. Tout le monde sait que moi, personnellement, je suis partisan de l'option militaire, je l'ai dit plusieurs fois. Aujourd'hui, lorsque l'armée se trouve dans une phase où elle est en train d'en découdre totalement avec les rebelles, et qu'elle donne la chance à ce que ceux qui peuvent se rendre puissent se rendre volontairement, sans qu'aucune vie humaine ne soit perdue, sans qu'aucune cartouche ne soit perdue, sans qu'aucun blessé ne soit vu, et en quoi cela constitue une faiblesse pour notre armée? Je crois que c'est des stratégies des armées modernes. Et tout ce qui n'a jamais fait l'armée, peut-être, ils pensent que les militaires sont des machines, on doit pousser pour terminer la guerre. Il y a un temps pour faire une évaluation, pour comprendre qu'est-ce qui doit être fait. Et je crois qu'il faut laisser à nos forces armées le temps de mûrir ces stratégies et d'en finir totalement avec les ADF Nalu. Et je crois que ceux qui relèvent les faiblesses aujourd'hui, demain, seront les premiers à jeter des fleurs à nos forces armées. Et je ne suis pas d'accord que quelqu'un, qu'il soit en Afrique du Sud ou pas, commence à dire que c'est aujourd'hui que l'armée apparaît très faible après des victoires contre les rebelles de M23, après le contrôle de plus de 16 localités dans le territoire de Beni qui étaient tenues par les ADF Nalu, qui étaient des grands bastions, des bases militaires, avec un arsenal, avec beaucoup de choses qui ont été récupérées. Dire que cela relève d'une faiblesse de l'armée, je crois que ce n'est pas être compatriote.
Monsieur le gouverneur, il y a Joseph Kamwanga qui nous écrit de Paris en France qui dit « L'option de largage des tracts d'appel à la reddition des ADF prises par les FRDC et la MONUSCO est à mon humble avis un aveu d'échec face à ces bandits armés dont les capacités de nuisance et de résilience associées à l'art de guérilla ont déjoué les stratégies militaires élaborées contre eux. Enfin, l'histoire des mouvements armés à travers le monde nous apprend qu'on ne vient jamais à bout d'une rébellion à coup de communiqués victorieux comme ceux auxquels nous avons assisté lors de l'offensive des FRDC, monsieur le gouverneur.
Oui, lui, il est à Paris. La guerre qui se passe au nord Kivu n'est pas comme une guerre qui peut se passer entre la France et l'Allemagne. Ici, nous sommes entre des rebelles qui sont des maquisards en brousse et qui sont en étau, dont tous les centres d'approvisionnement ont été coupés. Et aujourd'hui, on se demande si les FRDC les encerclent par la stratégie qui est faite actuellement, qu'est-ce qui sera fait demain? Comment vont-ils vivre? Ils n'ont plus de vivres, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus quoi faire. Quoi de plus noble qu'une armée, effectivement,
fasse une sorte de couloir qu'il ouvre pour dire, eh bien, la mort est devant vous. Mais nous vous donnons la chance de devoir vous rendre devant les forces armées, vous rendre devant les bases de la MONUSCO. En quoi cela peut irriter les gens si c'est une stratégie qui nous amène à la fin d'une guerre après 20 années? Je crois qu'il faudrait que les gens qui sont en Europe, qui sont ailleurs, apprennent, comme le professeur Maka, à comprendre ce qui se passe. On n'a pas beaucoup communiqué. Chaque guerre a ses stratégies. Si les M23 avaient des stratégies que nous avions montées contre les rebelles ougandais, il y a d'autres stratégies que nous avons montées. Et que donc, on n'a pas condamné les stratégies qui nous ont amené au résultat actuel, celui que j'ai démontré tout à l'heure, en démontrant effectivement que tous les espaces sont sous contrôle de nos forces gouvernementales. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce qu'on appelle EDF Nalou par la dernière stratégie qui vient d'être mise en place conjointement par nos forces armées et la MONUSCO. Moi, je ne crois pas que c'est une erreur que nous faisons actuellement. Ça nous donnera raison lorsque nous allons venir à bout de cette rébellion d'ici quelques jours.
Professeur Arsène Mouaka, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
C'est Gérard Kazingoufou à partir de Beni de la province du Nord Kivu. Tant que les kidnappés ne seront pas libérés, le bilan des opérations de la traque des ADF restera mitigé en dépit des efforts louables que fournissent nos FARDC. Il faut noter aussi que la population de Beniville et territoires paye au quotidien un lourd prix suite aux exactions de toutes sortes leur imposées par les brebis galeuses vêtues en tenue militaire des FARDC.
Réaction, professeur Mouaka.
Oui, en fait... Je voudrais à la fois être d'accord avec lui et ne pas être d'accord. D'abord, dire que tant que les kidnappés ne reviendront pas, il n'y aura pas de victoire. Bon, je crois que, je l'ai dit, il y a très peu d'informations. Je crois qu'il y a quelques kidnappés qui reviennent. Je ne dirais pas 100, comme le gouverneur l'a dit, mais je crois qu'il y a quelques-uns et nous croyons avoir rencontré certains. Et donc, je voudrais dire à Kazingoufou de Beni que quelques kidnappés reviennent, mais c'est pas comme la population l'aurait souhaité. Il y a 800 et s'il y a une dizaine qui revient, bon, la population continue à attendre. La deuxième chose, c'est que il estime que la population de Beni, ville et territoire, paie un lourd tribut et que peut-être le FARDC fait aussi des choses inacceptables. Je crois qu'il y a un problème sérieux dans la ville et dans les territoires de Beni en ce qui concerne l'encadrement d'une brigade. Il faut que je le dise ainsi. Et je crois que ceux qui sont dans cette zone-là connaissent de quoi je parle. Et j'en profite pour dire aux autorités de l'armée, notamment l'état-major général, qu'il faut aider à ce que nos éléments continuent à redorer l'image des FARDC comme cela a été à Rutshuru. Et que quand on se lamente d'une unité, je crois qu'il faut la relever.
Alors, professeur, quel est votre avis au sujet de cette option qui consiste à lancer des tracts sur les ADF, en fait, par hélicoptère pour les sensibiliser? Est-ce efficace?
L'efficacité doit être mesurée sur le plan militaire, puisque c'est beaucoup plus les résultats qui déterminent si une activité a été efficace. Et donc, je pense que si vraiment c'est que le colonel Amouli a dit, pour dire voilà, on a encerclé des gens qui utilisent une centaine d'otages comme bouclier humain, nous voulons sauver la vie des otages, bon, ça peut se défendre si les choses sont toujours sous contrôle des FARDC. Ce qu'on ne veut pas attendre, c'est qu'on nous dise, voilà, c'est la fin des opérations Sokol à 1, maintenant nous lançons une autre opération, je ne sais pas, sensibilisation qui recommence, puisqu'il faut vous rappeler que depuis 1992, on a déjà connu à peu près 5 opérations. Opération Rwenzori dans les années 92, Tafisha Akilima sous la guerre du FDKML, opérations dont j'ignore les noms qui s'étaient menées vers Mwalika à 2005, les opérations Rwenzori et après les opérations Sokola 1. Ça signifie qu'il y a déjà 5 opérations pour vouloir mettre fin à ce phénomène qui a duré plus de 20 ans. Et la peur, à chaque fois, c'est qu'on dise soit les opérations sont finies alors qu'on voit très clairement qu'il y a encore quelque chose qui bouge, ou tout simplement, nous recommençons notre opération de dialogue qui va... Je crois que le gouverneur a la meilleure position. Tout le monde connaît depuis la guerre du M23... Comme on le dit à Swahili, ce qui apaise le feu, c'est le feu. Et donc, ici, je crois que ça doit rentrer dans la tête des décideurs et du gouvernement particulièrement, que pour mettre fin à ces aventures qui se passent dans les forêts du parc national de Virunga à l'est du Congo, pratiquement à territoire de Beni, à ville de Beni, il faut l'arme. Donc ça, ça doit être catégorique. Mais s'il y a dialogue, c'est pas notre affaire. Je crois que les EDF, Nalu, c'est pas une rébellion congolaise. Elle est ougandaise. Je crois que nous travaillons trop pour l'Ouganda, trop pour le Rwanda, trop pour les voisins. Et donc, je pense que s'il y a dialogue,
merci,
il faut que notre diplomatie soit en mesure d'impliquer l'Ouganda, d'impliquer la communauté internationale pour que le dialogue se passe entre ceux qui sont en brousse et les Ougandais. Et je pense qu'à l'étape où nous sommes, s'ils estiment qu'il y a sensibilisation, le gouvernement doit être en mesure de nous dire quelle est la part du gouvernement ougandais dans ça.
Merci.
C'est le gouvernement ougandais qui a aussi intérêt que ça se termine. Et donc,
merci,
il n'est pas question que nous puissions souffrir seuls comme si nous étions à face de notre propre question.
Merci, professeur.
Parce que nous savons que le nœud de la solution se trouve en Ouganda.
Merci, professeur. Professeur Bouyendoua, il y a Amos qui va dans le même sens que le professeur Mwaka. Il dit, tant qu'il n'y aura pas de diplomatie en RDC, pouvant convaincre la communauté internationale à imposer des dialogues inter-rwandais, voire ougandais, tout autre plan qu'on peut envisager à l'égard des ADF, FDLR, sera voué à l'échec. Et c'est la population congolaise qui en pâtira toujours, professeur.
Oh oui, je suis bien content de suivre mon collègue le professeur Mwaka. Il disait que le remède du feu, c'est le feu. Antonio dit derrière moto ni moto. Je reviens à cette idée un peu simple. Que vraiment, si nous sommes attaqués, nous ne devons que nous défendre. Et non pas seulement nous défendre, mais attaquer et pourfendre. Parce que pour le moment, les ADF Nalu, nous avons subi. Il faut qu'on cesse de subir. Il faut qu'on attaque jusqu'au dernier retranchement. Que ces retranchements se retrouvent en Ouganda, au Rwanda, même en Tanzanie, nos amis qui nous aident quand même à nous défendre, nous devons être en mesure de faire cela. Parce que l'actualité, j'espère que son Excellence, monsieur le gouverneur du Nord Kivu, ne me contredira pas, mais s'il me contredisait, ce serait pas très grave. Mais je pense qu'actuellement, le Kivu est en train quand même de retrouver au moins une identité, parce que c'est une entité. Et par devers nous, on a trouvé quand même que le Kivu, c'était une entité qui a une identité et qu'à partir de ça, quand même, on doit être en mesure de nous défendre économiquement, politiquement, culturellement. Et je pense que c'est sur cette thématique-là qu'on devrait quand même arriver à nous dire que on doit affronter quiconque affronte la République démocratique du Congo sur des questions qui relèvent de notre souveraineté. Et sur ces questions-là, c'est vrai que dans nos déchirements, dans nos contradictions, nous n'arrivons pas à nous retrouver dans des forums où on peut savoir quelle est la place du Kivu dans cette ère d'Afrique orientale et du Grand Lac, mais aussi dans tous les Congos, parce que quand même, après tout, nous sommes du Congo, mais nous sommes aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est sur ces questions-là que on doit un peu réfléchir, parce que nos amis qui viennent, par exemple, de l'Ouganda attaquant leur pays, qui viennent du Rwanda attaquant ou bien défendant leur pays, ils ne doivent pas quand même se jouer de nous pour nous distraire et puis nous enfreindre nos efforts vers notre développement.
Alors, professeur, la thèse que vous évoquez tout à l'heure n'est-elle pas contradictoire à celle que vous évoquiez un peu plus avant en parlant du fait que nous devrions composer ensemble, négocier, parce que le monde est actuellement un village planétaire? Voilà, désolé, nous venons de perdre le professeur Bouyendoua, on va tenter de le retrouver. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, le professeur Bouyendoua a proposé dans sa première intervention que l'on puisse négocier, pourquoi pas composer avec ces EDF, parce que le monde aujourd'hui est un village planétaire. Est-ce envisageable?
Moi, je ne pense pas que ce soit l'option du gouvernement. Le gouvernement, il faut que les gens comprennent. Lorsque je suis en train de parler, je donne au moins le point de vue officiel. Lorsque on lance des tracts dans les zones de Abia, de l'Est, de partout là-bas, parce qu'on y signale des traversées éventuelles des EDF Nalu, ce n'est pas qu'on a arrêté les opérations militaires contre les rebelles ougandais. Il faut que les gens comprennent d'abord ça. Les forces armées n'ont pas arrêté les opérations contre les EDF, mais la stratégie utilisée actuellement, c'est de dire ils sont dans un triangle de la mort, ne peut-on pas donner la chance à ce que et les EDF Nalu et les otages puissent quitter ce triangle de la mort pour se livrer auprès de nos forces armées. Cette stratégie-là ne dit pas qu'on a arrêté la guerre ou qu'on veut négocier avec les EDF Nalu pour parler de quoi? Parce qu'il n'y a pas de revendications qui sont d'origine congolaise qui ont poussé les rebelles ougandais à se retrouver dans ce lieu-là. Et non, il y a 20 ans et plus que ces rebelles sont dans ces localités-là. C'est la première fois depuis que toutes les opérations ont été menées depuis 1992 jusqu'à la dernière qui était menée en 2010. C'est la première fois que nos forces armées voient la localité de Medine, la localité de Canada, la localité de Makoyova 1, Makoyova 2, toutes ces localités qui sont aujourd'hui sous contrôle de nos forces armées. Donc je crois que nous devons nous réjouir d'abord du fait que nous avons récupéré nos espaces. Je me rappelle qu'en janvier et mars 2013, lorsque j'ai organisé le dialogue social à Beni, il m'était difficile de quitter le territoire de Beni, de faire 2 kilomètres à l'intérieur du territoire. Tous ces espaces étaient occupés par ces rebelles et EDF Nalu. Aujourd'hui, je suis en train d'habiter la route de Beni Kamango, qui est longue de 72 kilomètres, et les gens peuvent se mouvoir sur cet espace. Je crois que c'est des résultats auxquels on est arrivé, et la stratégie utilisée actuellement ne doit qu'être applaudie par les communs des mortels. Le manque d'informations ne peut pas nous amener à douter de la sincérité de nos forces armées et de la puissance que démontrent nos forces armées aujourd'hui face à l'ennemi qui est dans sa dernière phase d'être réduit et de pouvoir subir la capitulation comme il en était le cas avec la M23 en novembre 2013.
Professeur Mouaka, s'il y avait des recommandations, des conseils à donner pour que ces opérations se déroulent de la meilleure des manières et qu'on puisse récupérer les otages, qu'est-ce que vous diriez au gouvernement?
Je crois que le gouvernement est le mieux placé pour répondre à cette question, puisque le gouvernement nous dit que c'est de la sensibilisation qui pourra le faire. Bon, mais moi, j'assiste à d'autres choses sur le plan international.
De votre point de vue d'analyste, oui, d'observateur.
D'autres gouvernements procèdent autrement.
Oui, professeur, je disais que c'est vrai que c'est pas à vous de répondre à cette question, mais vous, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, en tant que politicien, qu'est-ce que vous pourriez dire comme conseil, prodiguer comme conseil au gouvernement?
Je demanderai à notre gouvernement de procéder par des opérations commando pour sauver les otages.
Allô, professeur?
Oui, allô, je disais que je demanderai au gouvernement congolais de procéder par des opérations commando pour sauver les otages, puisque je semble croire que le dialogue pourra démontrer ses limites. Ce ne sera pas la première fois qu'on procède par ce genre de sensibilisation.
Et donc, pour vous, il faut absolument sauver les otages. Mais est-ce facile, professeur? Vous n'êtes pas un expert militaire. Est-ce facile, vous parlez de près de 800 personnes, beaucoup d'otages comme ça qui serviraient de bouclier humain? Est-ce assez facile, une pareille opération?
Je souhaiterais que ce soit facile, mais je semble croire que le dialogue a montré ses limites dès le départ, parce que dès le moment où on a commencé à dialoguer, on a assisté à des carnages où la population congolaise a été égorgée dans des localités comme Kikingi, comme Mwenda, comme Mbau, Oicha, Kokola, et ainsi de suite. Donc, j'ai difficile à croire que les EDF, qui ont la capacité de fabriquer des bombes, je crois qu'il y a des documentaires que le gouvernement a mis en place pour nous montrer comment il a défait certaines bases, où ces gens s'adonnaient à des fabrications de bombes artisanales. Il n'y a aucune république au Congo qui le fait, c'est la seule. Et donc, je semble croire qu'il faut prendre la mesure des choses et imposer une stratégie pas vraiment directement légère.
Professeur, la communauté internationale pourrait-elle envisager un dialogue inter-rwandais comme c'était le cas, comme on le réclame tant pour le inter-ougandais, j'allais dire, comme on le réclame tant pour le Rwanda avec les FDLR?
Je semble croire que ça s'impose et c'est du devoir de notre gouvernement d'amener les Ougandais, d'amener la communauté internationale à s'impliquer dans cette situation qui n'a que trop duré. Une vingtaine d'années, c'est beaucoup. Et je semble croire que le gouvernement Mobutu a échoué. Celui qui a succédé, il a échoué. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un autre gouvernement qui est en difficulté sur cette question. Et donc, il est très important que l'Ouganda soit impliqué dans la stratégie. Et la seule implication ne sera pas nécessairement militaire, mais je semble croire que son implication est politique et diplomatique. C'est-à-dire que l'Ouganda rentre à dialogue avec sa rébellion. Et ce n'est pas la seule rébellion, il y a le LRA et tout le reste.
Monsieur le gouverneur, l'émission tend déjà à sa fin. Une implication du de l'Ouganda sur le plan diplomatique et politique avec les EDF est-ce envisageable?
Oui, moi je pense que la première chose d'abord, c'est que depuis que les guerres ont commencé en RDC, j'ai comme l'impression que et la population civile et tous les politiciens, tout le monde se comporte en stratégie militaire. Je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a des stratégies militaires formées pour ça. Et lorsqu'on parle de questions militaires, il faut qu'on accepte que ce qu'on ne connaît pas, on doit puiser dans la mémoire de ceux qui connaissent. Aujourd'hui, que nous sommes en train d'attaquer la question des EDF Nalu, je ne vois en rien en quoi nous devons impliquer la diplomatie pour que l'Ouganda entre en ligne de compte. Les EDF se trouvent sur le sol congolais et au nom de notre souveraineté, nous devons tout faire pour les y éloigner ou pour les neutraliser totalement. Donc, il n'est pas question d'ouvrir un espace de dialogue pour commencer à dire « Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut parler avec les EDF Nalu ?» Aujourd'hui, comme on l'a fait contre le N23, la seule arme qui nous reste, c'est de devoir neutraliser totalement ces rebelles ougandais et de nous rassurer que nos populations vaquent à leurs occupations. Et ce qui est en train d'être fait à travers le mécanisme qui a été déclenché, c'est celui du largage de ces tracts dans les zones.
Merci.
Pour tenter d'obtenir, sans perdre beaucoup de vies humaines, la sortie de ces rebelles et de ces otages. Sinon, l'option militaire est toujours d'application et sur la table telle que voulue par le président de la République.
Merci, monsieur le gouverneur. La réalisation me signale qu'on a perdu le professeur Bouendoua. On ne parvient plus à le joindre. Professeur Mwaka, en guise de conclusion, le gouverneur Paluku dit qu'il ne faut pas envisager d'impliquer l'Ouganda parce que les choses se déroulent sur les territoires congolais.
Bon, c'est son point de vue. Je suis de ceux qui pensent que ce qui est militaire est le prolongement de ce qui est politique. On le dit humblement dans des petites notions de Sciences Po que la guerre, c'est une autre manière de faire de la politique. Et donc, quand on fait la guerre, on ne ferme pas la bouche des analystes politiques. Et donc, je voudrais dire tout simplement que je voudrais croire à notre armée. Et je voudrais, en terminant, féliciter notre armée qui fait du bon travail. Je voudrais l'encourager dans ses opérations qu'elle mène et je voudrais donner à cette armée le bénéfice du doute dans le choix qu'il a fait de pouvoir revenir à la sensibilisation par laquelle elle a commencé.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Je remercie l'équipe rédactionnelle composée de Guy Maté, Kéline Kouté et Samuel Kachak, sous la supervision de Pélékipéla, mise en onde de Jean-Claude Nsiala, présentation et coordination Alain Irung-Mouchinge. Merci de votre attention. Au revoir.